C'est après avoir participé au Festival des Francofolies en 2012 que notre invité décide de quitter son Cameroun natal et de s'installer à Montréal. Ses morceaux, souvent engagés, mélangent à la fois des sonorités et des langues venues des quatre coins du monde. À Montréal en musique, on rencontre Just One.
J'aimerais qu'au travers de ma musique, les jeunes Africains réalisent que leur identité et leur culture sont assez solides, ont assez de contenu pour les divertir, pour les cultiver, pour leur donner du bien. C'est pour ça que tout ce que j'essaie de faire à travers les scènes du monde, en jouant dans les plus grands festivals dans le monde, c'est de dire un message à ces jeunes, écoutez, il est possible de chanter dans nos langues, il est possible de chanter dans nos musiques, et faire les plus belles scènes du monde, il est possible, et c'est le message que je tiens et que je continue de donner aux jeunes Africains.
T'es originaire du Cameroun, est-ce que tu pourrais un peu me parler ton pays d'origine?
Oui, je suis né au Cameroun en 1983, en 12 mars. J'ai passé toute ma vie là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai passé mon adolescence là-bas et je suis sorti du Cameroun pour la première fois, c'était seulement en 2012, pour venir justement à Montréal. Donc mon enfance, ma vie et tous mes souvenirs d'individus y sont.
Pas commencé par la musique en fait. Avant, quand tu étais jeune, tu faisais plutôt du dessin, tu as même gagné plusieurs prix. Comment est-ce qu'en fait tu es passé du dessin à la musique?
Je me suis laissé entraîner par la passion pour l'art et petit à petit, à cause de l'enfance que j'ai eue qui était très musicale, à cause du fait que ma mère était de culture très chrétienne, donc on priait tous les matins en chantant, ça faisait la formation de chant. Le dimanche, on allait à l'église, il y avait un band qui jouait. C'est les églises héritées de la culture nord-américaine. C'est du gospel, c'est très vivant. Donc j'ai grandi là-dedans. Et puis, étant donné que je dessinais de moins en moins, la musique m'a inspiré tranquillement. Et puis, dans mon adolescence, je me suis retrouvé à être fou passionné de musique.
L'histoire de ton artiste est vraiment intéressante. Est-ce que tu pourrais la partager avec nous?
Oui, bien sûr. Quand j'ai sorti mon premier single en 2007, sur la chaîne de télévision nationale de mon pays qui s'appelle la CRTV, il y avait une émission où, pour les artistes de la relève, on venait faire un live ou un playback, c'était selon. Donc, moi, je m'appelais, mon prénom, c'est Justin. Donc, j'ai toujours écrit Juste-1 en chiffres. Ça s'élisait Juste-1. Donc, Justin, c'était un jeu de mots. Donc, le réalisateur de l'émission, lui, est anglophone. Et quand il fait ses fiches, il écrit 1 plutôt que de l'écrire en lettres, il écrit, de l'écrire en chiffres, il décide de l'écrire en lettres. Donc, en tant qu'anglophone, forcément, il écrit O-N-E, one, ouais. Just one. Et ensuite, le présentateur que je connais bien, qui s'appelle Daniel Bongué, il vient dans les loges. Le groupe Just One se prépare. On était là, on se regarde, c'est qui Just One? Je suis monté, il était très fâché, c'était un moment un peu frustrant. Je suis monté, j'ai fait le show, c'était super. Les gens, ils ont adoré. C'était une chanson, c'est du Zouk R&B. Les gens, ils ont adoré. À la fin de l'émission, il y a plein de gens qui sont venus me voir. J'ai signé les autographes. J'adore ce que tu fais, Just One, c'est super. Et puis je dis, non, c'est pas Just One, c'est Justin. J'ai passé toutes les années de ma vie à cette époque-là à dire, c'est pas Just One, c'est Justin. J'étais fatigué, même dans la rue, les gens me croisaient. Ah, Just One. Je dis, non, c'est pas Just One, c'est Justin. À un moment donné, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je me casse la tête? Pourquoi je m'obstine avec ça? Je pourrais en faire un nom d'artiste. J'ai juste décidé de l'écrire de manière vraiment originale pour que ça ne sonne pas comme le gars qui veut juste s'écrire un nom en anglais. Donc j'écris Joss Whoan, W-O-A-N. C'est ça l'histoire de mon nom d'artiste.
T'as déménagé, t'as emménagé plutôt à Montréal en 2012. Oui. Pourquoi est-ce que t'as décidé de quitter le pays où t'as toujours vécu ?
Déjà, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie et j'avais eu la chance d'être invité par les Francofolies de Montréal en 2012. J'étais venu présenter mon album ici. Ensuite, j'ai fait une tournée au Québec. Et quand je suis reparti au Cameroun, j'ai beaucoup adoré ça. Je pense qu'il y a quelque chose chez les Montréalais, chez les Québécois qui m'a séduit. Leur facilité à vivre, leur facilité à accepter les gens, à accueillir. C'est des gens qui sont réputés pour être très accueillants, très, très chaleureux. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et puis, ce qui était fascinant dans tout ça, c'est qu'en même temps, on était en Amérique du Nord, mais en même temps, on parlait français. Moi, ça m'a passionné. J'ai dit, j'aimerais ça venir ici. Et en plus, j'étais avec une Québécoise. Et puis, on s'est dit, ouais, mettons ça. Et puis, ouais, on est parti. Donc, on s'est installé là. J'ai fait mon bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Je suis très content d'être là.
Yeah, boom, man.
Dans cet album, qui s'appelle « Des reines », il y a un leitmotiv qui apparaît souvent, qui parle beaucoup des femmes. Pourquoi est-ce que ce thème est aussi important pour toi ?
C'est un thème très important pour moi parce que c'est un sujet, c'est une passion qui émane de quelque chose de profond et de personnel parce que j'ai grandi dans une famille monoparentale. Ma mère m'a élevé toute seule. Et en plus du fait que ma mère m'a élevé toute seule, j'avais deux grandes sœurs. Donc j'ai grandi juste avec les femmes. J'ai passé toute ma vie avec les femmes. Et j'ai toujours eu le sentiment que les femmes en Afrique, et je pense que c'est vrai, les femmes en Afrique n'étaient pas assez valorisées pour ce qu'elles apportaient à notre culture, à notre économie, à plein de choses. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie, au travers de cet album-là, de valoriser, de célébrer la femme africaine et la femme du tiers-monde. Il n'y a pas que la femme africaine, parce que tous ces pays émergents, ces pays pauvres-là, doivent beaucoup à ces femmes-là, et c'est important que les artistes s'engagent pour les valoriser, pour dire qu'on ne les célèbre pas assez comme elles mériteraient d'être célébrées.
Parfois, tu peux chanter dans 6 langues différentes sur un même album. Comment est-ce que tu choisis la langue dans laquelle tu vas t'exprimer et qu'est-ce qui change entre ces différentes langues ?
J'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup pratiqué cet exercice-là dans mon premier album, Deren, qui est sorti en 2011. J'ai chanté en près de 6 ou 7 langues. C'est parce que je suis né dans la ville, je suis né à Yaoundé, je suis un citadin. J'ai vu le village pour la première fois, j'avais environ 15 ans, 16 ans. Et dans la ville, dans les villes africaines, dans les grosses villes, on grandit avec beaucoup de langues. Généralement, il y a genre 10 ou 15 langues autour, mais vraiment des langues totalement différentes qui n'ont rien à voir les unes des autres. Donc pour moi, l'idée, c'était de faire dans un disque, de résumer un peu toutes ces langues qui m'avaient influencé. J'ai grandi avec des enfants qui parlaient du Bafia, du Bassa, de l'Etone, de l'Ewondo, plein de langues. J'avais envie de les chanter. Et puis, je choisissais aussi des langues qui n'étaient pas beaucoup valorisées musicalement. Aujourd'hui, par exemple, la langue que je chante, qui est le Bafia, je connais aucun artiste qui a essayé de faire la pop en Bafia, qui a essayé de faire du jazz, de la soul en Bafia. Donc pour moi, c'est des beaux défis et en même temps, il y a aussi un devoir de faire pérenniser ces cultures parce que les langues, elles meurent.
Est-ce que les langues dans lesquelles tu chantes sont parlées uniquement au Cameroun ou est-ce que ça va au-delà des frontières de l'Afrique ?
Il y en a beaucoup qui vont au-delà. Par exemple, le Bassa, une langue que je chante beaucoup, c'est une langue qui se parle au Libéria, c'est une langue qui se parle dans le sud, dans le nord du Soudan, au Cameroun, dans plein de pays. Tu sais, l'Afrique, c'est... L'Afrique n'a rien à voir avec les frontières que les Occidentaux ont dessinées dans la conférence de Berlin dans les années 1800. L'Afrique, c'est des peuples qui communiquent, qui vivent ensemble, qui sont très communautaires. Et c'est des gens qui ne se définissent pas par les frontières. Ma musique, c'est du groove parce que... En m'essayant à tout style de musique, à tout rythme contemporain, universel, populaire, tout ce que je vais chercher, c'est le groove. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mon dernier spectacle, par rapport à mon dernier album, j'ai préféré prendre la bass. Parce que la bass, c'est l'instrument qui contrôle le plus le groove. Et moi, le groove, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'obsède. Et ma musique, c'est le groove. Je mélange. Dans chaque album, ce qu'il faut comprendre avec ma musique aussi, c'est que dans chaque album, je vais explorer un style différent. Dans mon premier album qui est sorti en 2011, j'ai fait beaucoup de musique du Sahel, de chansons africaines, beaucoup de douceur, chanter la femme, célébrer la femme, tout ça. Dans mon deuxième album, je suis plus allé à la rencontre de la soul, du jazz, de la neo-soul, parce que c'est les musiques qui ont fait mon adolescence, le hip-hop. Et puis dans mon dernier album, je suis plus allé à la rencontre du pop, de la pop, du rock et du heavy metal, parce que c'est des musiques que j'entends beaucoup ici depuis 5 ans que je vis en Amérique du Nord. Et désormais, je suis un Nord-Américain. Ouais. Et pour moi, c'était important. Donc la musique, dans ce cas-là, elle va toujours être hybride, parce que la démarche, elle consiste vraiment à aller vers les musiques qu'on aime, les musiques qui nous passionnent, les musiques que les gens aiment. Mais le groove, toujours chercher le groove. Moi, quand je suis sur scène, c'est vraiment le groove que je donne aux gens qui sont en face de moi.
Africa,
La musique du monde, c'est d'abord une démarche. Et c'est les gens du jazz qui, pour la première fois, ont prononcé l'expression « world music ». L'idée, ça consistait à quoi? C'est parce que comme le jazz, c'est une musique qui est capable d'absorber. Le jazz, c'est la musique populaire qui a le plus de sous-styles. Et faire la musique du monde, ça consiste à aller vers les autres. Moi, je fais ma musique, toi, tu as la tienne, je la prends, je la mélange, Donc, c'est la fusion. Donc, si on veut faire la musique du monde, que ce soit au Québec ou n'importe où, c'est important de mélanger ce qu'on fait avec ce que les autres font. C'est vraiment important, c'est le partage, donner. Je te donne, tu me donnes, on mélange, on fusionne. Et là, ça permet. Et là, du coup, il n'y a plus de difficultés parce que non seulement ça permet à ce que tout le monde se reconnaisse dans ce que tu fais, mais en plus, pour toi, c'est plus facile de parler et de vendre ce que tu fais parce que tu t'entoures de gens qui sont légitimes à la musique que tu fais.
Là, je voudrais parler d'un événement qui t'est arrivé qui est un peu plus lourd. Le 22 mars, tu étais à l'aéroport de Bruxelles au moment des attentats. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Je sais que ça a une place importante dans ton dernier album.
Oui, c'est vrai. J'étais allé faire quelques concerts à Paris. Après, je suis allé en vacances au Cameroun. Je travaillais sur mon troisième album qui était presque terminé. Et quand je revenais, j'ai fait une escale à Bruxelles. Donc, il y a eu les attentats. Les bombes ont détonné à quelques mètres de moi. Ça a été une expérience difficile parce que j'avais presque terminé mon album et j'ai réfléchi et je suis arrivé par la conclusion qui est que le monde est trop inégalitaire. C'est pour ça que j'ai baptisé mon album Second Chance. J'en ai fait un album engagé parce que je pense qu'il est plus que temps qu'on arrête ce cinéma, ce théâtre-là. Genre, les pays qui sont dans le sud vont travailler, on va exploiter la matière première. Il faut arrêter ça. Je pense que tous les humains méritent de vivre dans la dignité, méritent de vivre dans le respect, méritent de vivre en tant que considérés au moins comme des êtres. Et il faut qu'on se donne une deuxième chance de créer un monde équitable pour qu'on n'en arrive plus à ce que j'ai vécu à Bruxelles. Moi, mon rêve, c'est que quand je vais dans mon pays ou dans mon village, comme je vais souvent, que dans, je sais pas, 10 ou 50 ans, que tous les jeunes n'aient pas seulement envie d'avoir un iPhone et des baskets. C'est bien ça, mais qu'ils soient capables de porter le boubou du village, qu'ils soient capables de manger le plat traditionnel en étant fiers. C'est leur culture. Moi, mon village, j'aimerais qu'il soit comme il est. Moi, je rêve pas de rentrer un jour dans mon village, voir des gratte-ciels, des autoroutes, des machins. J'aurais envie de me suicider. Moi, je pense que mon village, il est bien comme il est, avec les petites cases, avec la rivière, avec le champ qu'il y a derrière. Et mon rêve, c'est que les humains soient capables d'apprécier leur monde comme il l'est, sans envier forcément ce qu'il y a chez les autres, parce que tout ce qu'il y a chez les autres n'est pas forcément bien ou mieux pour nous. C'est ce que je pense.